Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour ce nouveau rendez-vous avec notre évêque, Monseigneur Laurent Camiade, avec Jean-Claude Bonnemère et votre serviteur Pascal Bahut pour ce temps de rencontre. Nous allons évoquer ensemble différents sujets d'actualité et puis des sujets concernant notre diocèse. On voulait évoquer avec vous le jubilé 2025 qui va être proclamé par le pape François, avec comme thème principal « Pèlerin d'espérance ». Jean-Claude.
Oui, on imagine que cette thématique va se décliner dans le diocèse de Cahors et quelles en sont un peu les grandes lignes?
Alors la thématique pèlerin d'espérance, c'est bien, il y a les deux mots, il y a le pèlerinage, le pape nous demande d'aller en pèlerinage à Rome. Donc il y aura un pèlerinage à Rome organisé en novembre 2025 pour le diocèse, il y aura un pèlerinage à Rome pour le pèlerinage des jeunes pendant l'été, donc fin juillet, début août 2025. Donc il y aura au moins ces deux événements proposés au plan diocésain, mais en fait il y a des jubilés thématiques tout au long de l'année, donc on peut aussi aller à Rome par ses propres moyens ou en rejoignant d'autres groupes. Et voilà, nous ferons aussi nous un pèlerinage à Paray-le-Monial en février 2025. Mais sinon, sur la thématique elle-même, le pape nous invite à entrer comme pèlerin dans l'espérance, c'est-à-dire dans un renouveau, un regain de l'enthousiasme de la foi qui nous conduit vers la vie éternelle, qui nous permet de vivre dès aujourd'hui de la joie du Christ, d'être aimé de lui, enfin, et d'ouvrir aussi nos yeux sur les réalités du monde, pas seulement en critiquant ce qui va mal, même si beaucoup de choses vont mal, mais aussi en percevant les signes d'espérance. Donc j'ai proposé que dans toutes les églises qui sont ouvertes et où les gens peuvent entrer, les gens ont plaisir à entrer, prier, et on voit que souvent les gens aiment bien aussi, enfin certains en tout cas, et beaucoup, aiment bien quand il y a un cahier ou un lieu d'expression, je vais proposer un cahier d'espérance où les gens pourront écrire les signes d'espérance qu'ils voient autour d'eux, dans leur vie, dans la société, dans l'église, enfin voilà. Donc ça va être une démarche comme ça de, ne serait-ce que se poser la question, est-ce que je vois des signes d'espérance autour de moi? Je pense que ça peut faire grandir la conscience que nous sommes sauvés par le Christ, et donc c'est cette démarche qui sera proposée très largement, donc non seulement à ceux qui viennent le dimanche à la messe, mais à tous ceux qui rentrent dans nos églises et qui le veulent bien, ils auront la possibilité d'exprimer des choses. Je ne sais pas ce qu'on en fera après, mais on va se servir de ça. Et puis donc voilà, le pape ouvre ce jubilé à Rome le 25 décembre de cette année, donc pour la naissance du Christ, puisque c'est les 2025 ans, nous allons fêter de la naissance du Christ. C'est ça le jubilé 2025. Et donc, il est demandé que dans les diocèses, le 29 décembre, à la cathédrale, on s'associe à cette ouverture. Donc, il y aura une petite procession et un temps une démarche spirituelle. Et on invitera aussi une personne par paroisse à venir à la cathédrale pour recevoir une bannière du jubilé qui sera ensuite dans les églises du diocèse. Voilà, et il y aura aussi une image prière avec la prière du jubilé qui sera diffusée dans les paroisses. Et puis, comme le pape nous invite à vivre comme tout jubilé, il y a une démarche pénitentielle pour accueillir l'indulgence du Seigneur. Et aussi, donc pour accueillir l'indulgence, il y a des conditions, il faut passer par le sacrement de la réconciliation. Et donc, on sait qu'il y a parfois des difficultés pour vivre ce sacrement. Donc, il y aura au début du carême 2025, donc au mois de mars, trois soirées dans trois lieux du diocèse, mais ce sera la même chose dans chaque lieu. Hein, c'est pour délocaliser et permettre au maximum de gens d'y participer sur ce thème de comment bien se confesser et accueillir la grâce du jubilé. Voilà, j'en dis pas plus. Mais
alors, vous avez évoqué plusieurs pèlerinages. Est-ce qu'on peut imaginer que les inscriptions seront bientôt ouvertes?
Ah oui, alors les inscriptions, alors oui, pour oui, ça sera bientôt ouvert. Je crois qu'il n'y a pas encore de... Mais enfin, on peut déjà postuler auprès du service des pèlerinages. Je pense que d'ici quelques jours ou quelques semaines, ce sera ouvert.
J'en profite pour citer le pèlerinage organisé par le groupement paroissial de Figeac, à Rome. Nous en avons parlé hier soir et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est possible de s'inscrire à ce pèlerinage.
Oui, et qui a lieu plus tôt, hein, je crois.
Oui, plus tôt. Oui. Alors on va revenir sur notre diocèse, même si on l'a évoqué avec le jubilé, ce qui va se passer plus précisément sur notre diocèse, mais il y a eu des incidents qui se sont déroulés dans nos églises. Jean-Claude.
Alors, effectivement, vous avez célébré, Monseigneur, une messe de réparation à l'église de Bagnac-sur-Célé. Alors, pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé et en quoi consiste cette célébration ?
Bon, mais ce qui s'est passé, malheureusement, c'est arrivé dans pas mal d'églises. On ne sait pas qui sont venus, ont réussi à ouvrir la sacristie, à voler des objets de culte, des calices, un ostensoir. Ils ont trouvé la clé du tabernacle, donc ils ont volé le ciboire avec les hosties consacrées, donc le corps du Christ présent dans le tabernacle, donc le Saint-Sacrement. Donc ce qui, après quelqu'un aussi, mais je ne sais pas si c'est les mêmes personnes, avait retourné une statue, la statue de Saint Jean-Marie Vianney. Mais ça, c'est, je vais dire, ça a moins d'incidence, mais enfin, on s'interroge sur l'intention. Et pour nous, non seulement il y a un vol qui est quelque chose de toujours traumatisant quand on vient chez vous et qu'on vous prend quelque chose au-delà de l'objet lui-même, quelle que soit sa valeur, on peut le remplacer. Mais c'est quand même un peu une violence qui est faite à la communauté tout entière. Et a fortiori, si dans cette violence, le sacrement du corps du Seigneur, les hosties consacrées qui représentent pour nous, qui sont la présence réelle du Christ Jésus, profaner ces hosties est quelque chose de très grave. Voilà. Donc la célébration de réparation, c'est quelque chose qui est demandé par l'Église dans ce genre de circonstances, c'est-à-dire qu'on ne va pas célébrer à nouveau dans cette Église comme si de rien n'était. On va dire l'Église est souillée, il y a besoin de réparer spirituellement le mal spirituel qui a été fait. On ne va pas pouvoir réparer le mal matériel parce que même si la gendarmerie, je l'espère, est à l'œuvre, mais je vais essayer peut-être aussi de motiver de nouveau les autorités judiciaires pour sensibiliser à la répétition de ce type d'acte. Donc on fait une célébration dont la signification profonde, spirituelle de ceux qui la vivent, c'est de compenser par plus d'amour pour le Christ le manque d'amour pour lui qu'a été la profanation. Donc il s'agit en fait de manifester notre amour pour le Christ.
Vous avez évoqué tout à l'heure, dans le cadre de l'année 2025 jubilaire, le fait que les églises seront ouvertes pour que les personnes puissent se recueillir, prier, etc. Mais avec ce type d'accident, ça n'incite pas à l'ouverture des églises.
Alors, en tout cas, ça incite à faire bien attention à la manière dont on sécurise ce qu'il y a de précieux, nos tabernacles et puis les sacristies, où sont rangés souvent certains, quand il en reste, parce qu'on s'en est fait quand même voler beaucoup. Mais on sait qu'en fait, une église qui est fermée à clé tout le temps, est aussi la cible de vol, parce qu'en fait les voleurs savent que tout le monde pense que c'est fermé et qu'ils sont tranquilles, ils arrivent toujours à entrer d'une manière ou d'une autre. Donc le fait de fermer les églises n'est pas la solution, il y a une certaine vigilance à avoir, et puis en fait si l'église est ouverte, justement il y a des chances que des gens s'aperçoivent si quelqu'un est en train de commettre des actes indélicats, plus que si tout le monde sait qu'elle est fermée, enfin. Donc c'est il y a plus de vie dans un lieu ouvert que dans un lieu fermé. Donc, bien sûr, il y a certaines églises, on voit bien que c'est trop isolé, etc. Donc, c'est pas forcément prudent toujours de laisser ouvert. Mais voilà, plus on ouvre, mieux c'est quand même.
On voulait maintenant évoquer avec vous la journée diocésaine de formation catéchèse et liturgique qui aura lieu le 15 novembre prochain. Jean-Claude.
Effectivement, cette journée diocésaine de formation de catéchèse et de liturgie, à qui elle s'adresse au final ? Y a-t-il beaucoup de catéchistes dans le diocèse ? Quel est le profil de ces personnes qui donnent du temps pour passer l'enseignement et accompagner des jeunes et parfois même des adultes vers le baptême et les sacrements ?
Alors, je ne suis pas vraiment capable de vous donner le chiffre exact du nombre de catéchistes. Je ne sais pas, peut-être 100, peut-être plus. Mais en tout cas, dans toutes les paroisses, il y a en général plusieurs catéchistes parce qu'il y a ceux qui s'occupent des enfants. Il y a aussi des animateurs d'aumônerie hein, qui sont pour plutôt les collégiens et lycéens. Et puis, il y a aussi la catéchèse des adultes qui est proposée dans beaucoup d'endroits, et notamment là où il y a des catéchumènes, des adultes qui se préparent au baptême ou qui demandent d'autres sacrements comme la confirmation ou parfois la première communion s'ils ont été juste baptisés sans avoir fait leur première communion. Donc, ça fait un certain nombre de personnes qui sont concernées par l'acte catéchétique. Et en réalité, toute la communauté chrétienne est concernée par l'acte catéchétique parce qu'en fait, nous devrions être des communautés catéchisantes. Catéchisées parce qu'on a toujours besoin de recevoir, de faire retentir en nous la parole de Dieu, et catéchisantes parce que nous avons à la faire retentir aussi pour nos frères et sœurs. Donc, on pourrait élargir beaucoup. Après, le sujet de la journée, c'est le lien entre la catéchèse et la liturgie qui peut être dans deux sens, c'est-à-dire comment la catéchèse peut conduire à la liturgie. Et peut-être aussi comment la liturgie est une catéchèse, c'est-à-dire quand nous célébrons la messe, quand nous célébrons même un baptême ou n'importe quel autre type de célébration, ça nous dit quelque chose du contenu de la foi, ça fait résonner la parole de Dieu. Dans toutes les célébrations, on lit l'évangile, on lit des textes bibliques, donc on entend, et il y a toujours une catéchèse aussi dans la liturgie. Voilà. Donc, et en même temps, on voit bien que pour bien vivre la liturgie, on a besoin d'y être préparé, voilà, il faut aussi des temps spécifiques pour catéchiser. Voilà, alors je ne sais pas, je ne vais pas faire déjà toute la journée, mais il y aura un intervenant qui est le père Spirissen, qui fait partie de l'équipe nationale de la catéchèse à Paris, du service national de la catéchèse. Voilà,
et Monseigneur, pouvez-vous nous rappeler comment devient-on catéchiste? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a un diplômante? Et comment ça se passe? Qui peut devenir catéchiste?
Alors, il y a des formations proposées par les services de catéchèse et aux services d'aumônerie, etc. Mais c'est vrai que c'est d'abord un appel, c'est-à-dire dans la paroisse en général c'est le curé ou d'autres catéchistes qui ont été délégués pour ça, qui interpellent, qui appellent quelqu'un, mais ça peut être aussi, et c'est très bien si des personnes se sentent intérieurement appelées à faire de la catéchèse, qu'elles en parlent avec leur curé, qu'elles se rendent disponibles, et puis il y aura un discernement pour voir dans quel type d'action catéchétique elles peuvent s'engager. Quoi.
Voilà. Père, on voulait évoquer maintenant le nouvel institut, le Centre Hélène et Jean Bastère, qui a pris place dans notre diocèse, cet institut de formation.
Alors effectivement, à Berganti, ce petit village entre Cahors et Limogne, est installé le centre Hélène et Jean Bastère, où sont dispensées donc des formations pour différents publics sur l'écologie intégrale. Cet institut est-il en lien direct avec le diocèse? Est-ce un organisme indépendant? Quel est un petit peu le lien avec l'église du diocèse de Cahors?
Alors institutionnellement, c'est assez indépendant. C'est une association. Qui a sa propre gouvernance, si on peut dire. Mais ce sont des baptisés, des chrétiens qui se sont mis ensemble pour, et c'est tout à fait légitime, pour proposer une formation. Alors pas seulement la formation. Il y a la formation. Il y a des proposition de ressourcement spirituel, et il y a aussi le projet de mettre en place un accueil social pour des personnes en difficulté, parce que justement l'écologie intégrale qui est leur thématique centrale, ça consiste à prendre soin de tout notre environnement, donc toutes les dimensions de l'être humain et de la création. Voilà. Donc il y a ces différentes dimensions, donc intellectuelles, plus spirituelles et plus aussi matérielles, sociales. Quoi. Ouais.
Donc l'écologie verte avance dans l'église du Lot.
Oui, tout à fait, on peut dire ça. Et après, voilà, ces chrétiens qui ont monté ça, me tiennent toujours au courant de ce qu'ils font et sont vraiment en communion avec l'évêque du lieu.
Alors, je vais faire un peu de pub pour notre radio, puisque on retrouve très régulièrement les créateurs, je vais dire, du Centre Hélène et Jean Bastère, et ceux qui interviennent régulièrement sur notre antenne. Donc je pense que nos auditeurs retrouveront des informations très régulièrement sur ce lieu-là et tout ce qui est proposé. Alors, on va arriver au terme de ce temps de rencontre. Si vous aviez un message à nous donner.
Le pape vient de publier une encyclique sur le cœur de Jésus, sur les aspects humains et divins du cœur de Jésus, de l'amour du cœur de Jésus. Que nous vivions notre foi avec tout notre cœur. Voilà, c'est ce que j'invite. La sainteté, c'est au fond cela. Jésus, par son cœur, nous fait comprendre, son cœur transpercé sur la croix, nous fait comprendre de quel amour il nous aime. Laissons un peu notre cœur s'ouvrir les uns aux autres, s'ouvrir au Seigneur.
Merci Monseigneur, merci d'avoir pris du temps pour nos auditrices et nos auditeurs. Merci à vous Jean-Claude Bonnemère pour être autour de cette table.